Salut à tous, je pense que vous avez maintenant bien eu le temps de vous remémorer tout ce qui s'était passé pour les enfants et les jeunes dans cette année 1978. Il faudra maintenant creuser un peu, car ce ne fut qu'un point de départ d'une toute autre vision de la télévision pour les plus jeunes, mais ce sera pour plus tard. Il faut d'abord, pour être complet sur cette année, continuer à parcourir les autres plans que nous désirons aborder, à chaque fois, soit les émissions télévisées, les séries pour tout âge, et enfin le cinéma. Si j'en juge par le nombre d'abonnements au podcast, le sujet intéresse encore. J'en suis bien heureux. Allons-y donc en douceur. Générique. Pour commencer, un petit mot pour Roger Carrel, décédé il y a quelques jours et qui fut la voix de bien des personnages qui étaient au top dans les années que nous parcourons. Bye bye Kermit, Winnie, Porcinet, Coco Lapin, Astérix, Le Piqueur de Rox et Rookie, Bernard dans Bernard et Bianca, Alf, Benny Hill, Charles Ingalls, Les Bisounours, Les Dupont de Tintin et Milou, Maestro et Pierre de Il était une fois et plein d'autres. Il était aussi la voix de ses trois PO et il rappelait d'ailleurs qu'il l'avait doublé jusqu'à un grand âge. Voici un extrait.
Quand je l'ai entendu en anglais, et j'ai bien pris, il avait pris vraiment, je vous le disais tout à l'heure, la voix d'un butler anglais. Il parlait toujours comme ça, et toujours assez distinct, toujours distingué, même avec son petit R2-D2, enfin, ne sois pas insupportable. Voilà. Et toujours, et en même temps, toujours tendri par son personnage. Dès qu'il est en danger, il fait, mon Dieu, où est R2-D2? Il est toujours ce côté. Et moi, ça m'avait beaucoup amusé, parce que il était un peu décalé, toujours, par aux autres. De droïde extraordinaire. Il va maintenant faire des séries télé avec le personnage. Alors peut-être je n'aurai plus l'âge, je suis très âgé maintenant quand même. Alors peut-être que je ne pourrais pas, je serais peut-être plus là d'ailleurs pour le faire. Vous direz le regretter Roger Carrel. Vous direz le regret quand même. Ah, mais d'accord. Je compte sur vous.
Et oui, comme il le disait, on peut le dire, ce sera donc le regretter Roger Carrel. Parce que la vie continue, passons sans transition à cette deuxième partie de 1978. Abordons les films marquants qui sont sortis cette année-là et les nouvelles émissions. En fait, je ne prépare chaque épisode qu'un à la fois, ce qui fait que quand j'ai décidé de faire cette année en deux parties, c'est parce que je pensais qu'il y avait énormément de matière sur les émissions jeunesse et sur le reste. Je me rends compte maintenant que c'est nettement moins le cas pour le reste. En effet, beaucoup d'émissions suivaient leur train-train et il y eut peu de nouveautés. Mais nous allons essayer néanmoins d'en ressortir la substantifique moelle, comme on disait en ces temps passés. Commençons donc par le cinéma. Chaque mois, il y avait une grosse sortie cinéma. Souvent, les films américains avaient un retard parfois conséquent sur la sortie aux États-Unis lorsqu'elle sortait en France et en Belgique. Je suppose qu'à cette époque, le doublage prenait énormément de temps ou qu'il y avait d'autres impératifs. Je vais donc me baser ici sur les dates de sortie francophones, donc en Belgique et en France, pas sur les dates de première sortie que l'on peut trouver sur les sites de cinéma. Pour commencer, arrêtons-nous sur le mois de février. On y découvre en salle un film de science-fiction américain, écrit et réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1977 aux États-Unis. Il avait pour acteurs principaux Richard Dreyfuss, François Truffaut et Terry Garr. Il aborde l'idée qu'une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les terriens. C'est donc Rencontre du troisième type. Le mois suivant, en mars, sort un film comique français avec Louis de Funès qui raconte l'histoire d'un industriel ambitieux qui agrandit son usine de matériel de dépollution en détruisant le jardin de sa femme Bernadette, férue d'horticulture. Il la lance ainsi dans une lutte interne et externe à leur couple. Elle s'appelle la Zizanie.
Ah, tu mériterais que je divorce! On ne divorce pas! On ne divorce pas, j'ai d'ouvrir la cage! Bernadette! Bernadette!
Au mois d'avril, on a droit sur les écrans à l'histoire de Tony Manero, le roi du week-end, la star des dance floors à Brooklyn, qui a des difficultés à retourner à la vraie vie la semaine venue. Sa rencontre avec Stéphanie va changer sa vie. Le film vaut surtout, soyons clairs, pour sa bande originale, en pleine période où le disco était encore au top, et pour sa star montante John Travolta. Il s'agit bien sûr de La Fièvre du samedi soir.
Now, the gritty little film that sparked a polyester revolution.
I love to watch you dance, Tony.
Saturday Night Fever.
Un film beaucoup plus dramatique maintenant. Un film d'Alan Parker qui s'invite sur ses grands écrans au mois de mai. C'est l'histoire réelle de Billy Hayes, un jeune touriste en Turquie qui est arrêté à la frontière avec 2 kilos de drogue sur lui. Condamné à quelques jours de prison, le jeune homme découvre que sa peine a été muée en prison à perpétuité par le gouvernement, qui souhaite de faire de lui un cas exemplaire. Désemparé, il multiplie alors les procès et parcourt les prisons les plus sordides. La bande-son est du célèbre Giorgio Moroder, et le film s'appelait Midnight Express.
His name is Billy Hayes. His story is true. And his ordeal is so incredible, it will change you forever. The movie is Midnight Express.
En juin, c'est de nouveau un film d'humour français loufoque, tenu de main de maître par Henri Guibet et Jean Lefebvre, et qui compte les déboires d'employés partis en vacances à l'île Maurice, qui ont eu le malheur de se moquer des esprits bien facétieux. Ça s'appelle « Ils sont fous, ces sorciers ».
Écoutez, il est là, le petit rire de l'esprit de l'île.
Il ne faut pas offenser les dieux, ils se vengent.
Je vous ai vu.
Les événements, ça se prévoit, Picard. Les événements, ça se domine.
Bien, monsieur le président.
Au mois d'août sort un film posthume. En effet, Bruce Lee, le célèbre acteur champion d'arts martiaux, était décédé pendant son tournage en 1973. Il faudra donc attendre plusieurs années pour qu'un réalisateur reprenne les rushs du film et puisse finir ce qui ressemble à un jeu de plateau avec des boss à affronter étape par étape. Ce film s'appelle alors Le Jeu de la Mort.
Après Big Boss, La Fureur de Vaincre, Opération Dragon et La Fureur du Dragon, Bruce Lee, le seul, le vrai, l'unique, l'immortel dans Le Jeu de la Mort. Bruce Lee était entré dans la légende de son vivant. Il nous revient une dernière fois dans Le Jeu de la Mort.
En automne, on retrouve John Travolta, cette fois avec Olivia Newton-John, dans une comédie musicale sur les comportements amoureux au lycée américain, dans ces années où les blousons en cuir et les tenues colorées faisaient fureur. De nouveau avec Travolta, c'est la bande originale qui fera de ce film un succès, avec de grands hits. Je vous parle bien évidemment de Grease.
John Travolta.
Ça n'a pas l'air d'aller fort, Danny.
Hey, ouvre ta glace, Reese.
Avec joie, mon cher.
Olivia Newton-John.
Rends-moi tes salades, mec.
Grease.
Danny, est-ce la fin?
Non, bien sûr que non. Ça n'est que le commencement.
On se rapproche alors de la fin de l'année et deux nouveaux films français vont avoir un succès qui par après en feront des films cultes. D'un côté, un film porté par Michel Serrault et Ugo Tognazzi qui décrit la vie d'un vieux couple gay gérant un spectacle de travestis, ayant le besoin de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire non gays, pour faire plaisir à la famille de la fiancée de leur fils. D'un autre côté, il y a le film qui lancera l'équipe du Splendide et qui permettra aux Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et autres Michel Blanc ou Josiane Balasco de faire une belle carrière. L'histoire se passe pendant les vacances dans un club méditerranéen. On parle ici, bien évidemment, de La Cage aux Folles, et puis, vous avez tous reconnu Les Bronzés.
Alors je me suis dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où personne n'est plus ridicule.
Et j'y vais.
Moi j'en peux plus. Je vais la tuer. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte. C'est
bon, alors...
la biscotte de l'homme.
D'accord.
Allez, on passe un peu difficile.
Un peu de confiture?
Oui, prends la cuillère.
Je prends la petite cuillère.
On dirait un thermomètre que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Tu la tiens, sans trembler.
Ben, d'accord, oui, sans trembler. Bah oui. Oh ah. J'ai cassé ma biscotte.
Viens nous voir à Gamasprinda.
Bienvenue.
bienvenue au club. Je suis Marcus, le chef de village. Je m'occupe de vos petits problèmes, de vos petits soucis, afin que vous vous sentiez complètement en vacances.
Ici, on a surtout un cri de guerre, hein. Bip, bip, bé. Alors, vous voyez, on se barre, quoi.
On dit que le club, c'est la mort du couple, alors, comme je suis célibataire...
Enfin, en fin d'année, L'Horreur et L'Eau faisaient de nouveau bon ménage avec deux films qui montraient les risques éventuels de la baignade. Les deux de manière assez peu probable. Mais c'est un peu le but des films d'horreur, et ceci dit, heureusement. D'un côté, lorsque l'on y rencontre des piranhas, comme dans le film du même nom de Joe Dante, dont nous reparlerons dans les années 80, je vous parle de Joe Dante. Ou de l'autre, quand on rencontre un requin géant, ce qui, dans la suite du film de Steven Spielberg, était de moins en moins crédible. C'était toujours Roy Scheider qui était l'acteur principal, mais il n'y avait plus de Spielberg, et ça fera déjà une grosse différence. Je parle bien sûr donc des Dents de la Mer 2.
Piranha. They're here. They're hungry. They'll eat you alive. Who can stop them?
Voilà pour ce parcours des films importants de 1978. Même si, comme je vous l'ai dit, ce qui reste après l'épisode précédent n'est pas aussi important que prévu, parcourons maintenant ce que les télévisions nous proposent en 78 hors émission jeunesse. Arrêtons-nous donc d'abord à la télévision belge. Il y a maintenant deux chaînes, la RTBF1 qui passe les émissions classiques et la RTBF2 qui n'émet qu'une partie de la journée et qui se focalise sur quelques feuilletons et surtout sur le sport. La première chaîne. Citons d'abord les émissions qui continuent depuis la période précédente. On peut ainsi parler de Zigzag, un jeu présenté par Paul Herman, qui aura une grande influence sur cette chaîne, d'ailleurs nous en reparlerons. Elle marquera la mémoire de beaucoup de téléspectateurs. On peut aussi reparler du Carousel aux images, toujours présenté par Céline Sasson, qui continue à accueillir des célébrités et à les faire parler de leur métier, mais aussi de leur vie. Il y a maintenant Lundi Sport, qui présente des informations sur les résultats du week-end, mais aussi des reportages et des portraits de sportifs de talent. On peut toujours regarder Les Sentiers du Monde, pour découvrir le monde depuis sa télévision, via divers reportages. Au niveau des émissions produites ou coproduites, je vais revenir ici sur trois d'entre elles. D'abord, Chanson à la carte, l'émission de variété la plus célèbre de la RTBF. Diffusée dès 1972, elle rythmera le dimanche soir de nombreuses familles et accueillera les plus grandes vedettes du moment. Et justement, en cette année 78, elle accueille une grande vedette du moment, Claude François. Sans que l'on ne sache à ce moment-là, ce sera une de ses dernières apparitions, puisqu'il va trouver la mort peu après. Ceci rend le début de discussion qui suit un peu malaisante, comme disent certains jeunes.
Bonsoir Claude,
ça va?
Et puisque c'est, oui, ça va pas mal, et puisque c'est la première fois qu'on se voit en 1978, permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe de Chansons à la carte nos meilleurs voeux. Et en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous souhaitez Claude?
Je souhaite continuer cette année encore et de nombreuses années encore à chanter, je veux dire, c'est la seule chose qui m'amuse et qui me passionne.
Il y avait aussi Zygomaticorama, qui va s'installer de plus en plus et mettre en avant l'humour à la télévision belge. En 78, elle est encore présentée par le grand monsieur de la télévision, qui est Pierre Tchernia. Cette année, on a toujours, et pour quelques années encore, les Jeux sans frontières, qui opposent toujours les pays proches. En Belgique, on retrouve Paul Herman aux commentaires, alors que du côté français, ce sera sur Antenne 2, ce seront les truculents Léon Zitrone et l'excellent Guy Lux qui seront aux commentaires. En 78, c'est en Belgique, à Rochefort, que la compétition a lieu. Les Jeux ont pour thème les aventures de Tintin et Milou. Les jeux s'appellent Help, le brible araignée, la bande d'Al Capone, Danger Anaconda, Fragile, la pile atomique, Ici Milou, Chang et le Yeti, ou encore le sauvetage de la Castafiore qui sera le fil rouge. L'équipe belge se battra bien et terminera dans les premières places du classement, mais c'est l'équipe italienne qui l'emportera finalement.
Thank you.
Au mois de mai, la RTBF retransmet aussi l'Eurovision. Le représentant belge est Jean Vallée, et sa chanson a un beau succès. Il finira une superbe deuxième place, juste derrière Israël. Mais on sait bien que depuis la nuit des temps, les résultats sont parfois plus politiques que musicaux à l'Eurovision. Et qu'en plus, Israël n'est pas vraiment en Europe. On peut donc dire que Jean Vallée fut un vainqueur de cœur.
Ça vous met dans le cœur des crayons de couleur pour dessiner le monde. L'amour, on devient musicien de vrai petit Chopin rien que pour une blonde. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça met le bonheur en musique. Ça rit de toute sa symphonie. L'amour, ça fait changer la vie.
Au niveau des feuilletons, la RTBF propose une rediffusion de 2 ans de vacances, qui est une série basée sur un roman de Jules Verne, qui raconte les aventures de jeunes gens de bonne famille pris en otage durant une croisière en frégate. Ensuite, la chaîne belge sera la première à proposer en avril la série de science-fiction L'Âge de Cristal. Antenne 2 prendra le relais en septembre, mais c'est bien la RTBF qui aura cette primeur. Cette série raconte la fuite d'un ancien limier, Logan 23, et d'une fugitive, Jessica 6, qui veulent échapper à la disparition programmée dans la cité des Doges à 30 ans. Ils sont pourchassés par Francis 14 et sont aidés par l'androïde Rem. Cette série ne durera qu'une saison. En juin, la RTBF rediffuse également Le Prisonnier, cette série où le numéro 6, ancien agent secret, est séquestré au village protégé de la fuite par une grosse bulle blanche molle qui étouffe toute velléité de départ, au sens propre comme au sens figuré. Durant les vacances, on trouve également une série allemande traduite par Commissariat Spécial K1, dont je ne sais rien, mais dont le générique vous dira peut-être quelque chose. Enfin, dernière série marquante pour l'époque, la rediffusion d'un feuilleton télévisé britannique qui décrit les relations entre les membres de la famille Forsyth, archétype de la bourgeoisie anglaise particulièrement aisée de l'ère victorienne. Cette série s'appelle La dynastie des Forsyth. Quant à la seconde chaîne qui propose des événements sportifs, on aura donc droit là-bas au Tour de France qui sera gagné par Inno au début d'une grande carrière. Cette année sera très positive pour les clubs belges en football puisqu'on pourra y voir 2 finales de Coupe d'Europe, une défaite du club Bruges en Coupe des Champions contre le grand Liverpool, pourtant par le plus petit des écarts possibles, 1-0, et une large victoire d'Anderlecht 4-0 contre Vienne en Coupe des Coupes. Enfin, en termes de football, il y aura donc les matchs du Mondial 78 en Argentine qui verra une victoire de l'équipe locale 3-1 contre les Pays-Bas. A noter pour l'anecdote qu'à cette époque, il y avait également des matchs diffusés sur Télé Luxembourg. Sur cette chaîne, quand il n'y avait pas de sport, citons également une mini-série historique qui aura aussi quelques mois de primeur par rapport à Antenne 2. Elle met en scène les aventures de Gaston Phébus, comte de Foix et seigneur de Béarn, un impétueux seigneur féodal du XIVe siècle, qui était marié à Agnès de Navarre. La série s'appelle Gaston Phébus, Lion des Pyrénées.
Gaston Phébus, jeune souverain du Béarn, reçoit de son oncle Corbéran, bâtard de Foix, l'éducation d'un chevalier. Quelques années plus tard, de retour d'une expédition contre les Sarrasins, accompagné de ses deux fidèles amis Espin et Ernoton, Phébus rentre au pays et retrouve Myriam, la compagne de ses jeux d'enfant. Un amour passionné unit ces deux êtres.
Passons maintenant à Télé Luxembourg. Parlons d'abord des émissions, puis nous passerons aux séries et feuilletons. En effet, à cette époque, Télé Luxembourg se positionnait déjà rapidement comme la chaîne des séries, et il y aura donc de la matière. Au niveau des émissions, il y a toujours de 5 à 7 l'émission de Michel Hetzel, le célèbre Coffre-fort, fameux jeu qui marquera toute la vie de la chaîne de télévision, le Hit Parade présenté par André Torrent, ou encore Entre Chien et Chat présenté par Sophie Garel. On trouve également Léo contre tous, jeu télévisé créé et animé à l'époque par Jean Stock. Ce jeu fut le premier jeu télévisé par ordinateur, créé et diffusé en Europe. Un labyrinthe se dessinait à l'écran, puis disparaissait, et le candidat symbolisé par un carré dans le labyrinthe devait trouver la sortie avant qu'un autre carré rouge symbolisant Léo ne vienne le manger. Allons-y pour les séries. Dès le début d'année, on retrouve des séries qui étaient programmées l'année précédente et qui avaient pourtant un beau succès. Citons celles dont nous avons déjà parlé, La planète des singes, Chapeau melon et bottes de cuir, ou encore L'homme qui valait 3 milliards, voire encore L'homme invisible. Bien évidemment, on retrouve également l'histoire de la famille Ingalls, dont le générique aura marqué tout le monde avec cette petite fille qui tombe dans le champ en courant. C'est donc La petite maison dans la prairie. On retrouve également une série Brigade Spéciale, qui n'a visiblement laissé aucune trace. La série, issue du roman de Jules Verne Michel Strogoff, est aussi au rendez-vous du début d'année. Cette histoire compte l'histoire d'un jeune capitaine, missionné par le tsar de Russie pour porter un message secret de la plus haute importance dans la lointaine Sibérie. J'avais à l'époque été assez perturbé par la scène d'aveuglement à la lame chauffée au rouge par un feu. En février, on retrouve la série western Police des Plaines, dont il existe 20 saisons, difficile de savoir laquelle a été diffusée à l'époque. Cette série met en scène les aventures du marshal Matt Dillon à Dodge City, dans le Kansas, après la guerre de sécession. Dans les mois qui suivirent, on aura droit à Brigade Criminelle et à Van der Valk, dont j'avoue n'avoir pas trouvé grande trace. J'ai trouvé un peu plus d'infos sur la série Bonnie, mais qui m'a également semblé avoir peu d'intérêt. Désolé si vous étiez fan de ces séries et que vous écoutez ce podcast, il faut parfois faire des choix. En effet, au mois de mai, Télé Luxembourg décide de passer une série qui était passée en 77 sur Antenne 2, et qui présente la première femme à avoir eu sa place dans l'univers très masculin pour l'époque des super-héros. L'actrice principale est une ex-Miss USA Linda Carter, qui allait marquer les esprits pendant 3 saisons avec son lasso magique, ses bracelets à l'épreuve des balles et sa tenue étoilée très américaine. Il s'agit bien évidemment de Wonder Woman.
Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire, elle jaillit comme un éclair.
Les vacances, notons 3 séries. La rediffusion du Grand Chaparral, une série western comptant les aventures d'une famille d'éleveurs de bétail, les Cannon, installée à Tucson dans l'Arizona durant les années 1870 et dont le chef de famille est Big Joe. On retrouve également la Brigade des Maléfices, série française parlant d'une équipe chargée au 36 quai des Orfèvres d'enquêter sur les affaires les plus insolites que la science policière classique n'arrive pas à résoudre. Ceci au grand dam de l'inspecteur qui ne croit pourtant pas au surnaturel. Souvenez-vous.
La brigade des maléfices ne figure sur aucun document officiel de la préfecture de police. Personne dans le public ne soupçonne son existence et pourtant chaque jour s'étend le champ de ses activités. Bien des enquêtes menées par les plus fins limiers de la police judiciaire s'arrêtent souvent l'impossible, l'incroyable, le surnaturel.
À la rentrée de septembre, le fantastique sera de nouveau au rendez-vous et ce sera de nouveau une grande avant-première pour les francophones. Il y aura donc une série qui raconte l'histoire d'une île paradisiaque où n'importe quel désir peut se réaliser. L'hôte de cette île est Monsieur Rourke. Il est accompagné de son fidèle assistant Tatou. On retrouve au casting Ricardo Montalban et Hervé Villachaise. C'est le début d'une longue aventure qui va durer plusieurs saisons et nous faire voyager dans des histoires fantastiques. C'est d'ailleurs le cas puisque la série s'appelait L'île fantastique. Et voici pour les chaînes non françaises. Du côté des chaînes françaises, ce sera plutôt rapide. En effet, c'est une année qui, comme je l'ai dit, hors les émissions jeunesse dont nous avons abondamment parlé précédemment, n'amènerait pas de grands bouleversements. Du côté de TF1, il y a toujours les émissions qui ont un succès incontesté, telles que Midi Première, toujours présentée par Daniel Gilbert, l'émission de consommation à la bonne heure, qui est présentée par Evelyne Delia. On retrouve toujours Les Animaux du Monde, avec Marlise Delagrande à la présentation, après la mort de son mari en 76. Dans le même créneau, 30 millions d'amis de Jean-Pierre Hutin et Mabrouk continuent. Michel Drucker est toujours présent avec ses rendez-vous du dimanche. C'est d'ailleurs enregistré le samedi. Il y reçoit des célébrités. Le samedi 11 mars 78, Claude François est attendu pour tourner l'émission. Il est en retard. Il téléphone qu'il doit arriver vers 16h, comme à son habitude en retard. Toute l'équipe l'attend pour tourner. Vers 15h, un flash spécial en direct du tournage annonçant le décès du chanteur électrocuté dans sa baignoire. Le lendemain, aucune émission ne sera réalisée. Et un hommage lui sera rendu toute la journée.
Nous sommes tous frappés au but de Chaumont d'une chose horrible, notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi, nous sommes sans voix, il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie, Pierre Perret est à mes côtés, enfin, nous sommes complètement perdus. Tu devais l'avoir dans l'émission, là.
Oui, on attendait Claude, avec Sylvie, et puisque Claude devait être dans notre émission demain. Oui. Nous sommes un petit peu anéantis par tout ça. Je crois j'ai pas bien réalisé encore la disparition de Claude François.
Non, je crois que ça paraît impossible que Claude François fait partie de tout ce que nous avons connu, de tout ce que nous faisons.
On trouve toujours des émissions sur le sport, comme Automoto ou bien maintenant Téléfoot le dimanche matin, qui à l'époque est présenté par Pierre Candioni. Quand il y a un interlude nécessaire pour raisons techniques, on a droit aux aventures des Tiffins. Enfin, au niveau des séries, il y aura d'abord une série française dont on se souvient. C'est la rediffusion d'une production de FR3, qui est un feuilleton comptant une idylle. L'idylle de deux enfants qu'un sort commun a réunis dans un même univers. C'est surtout l'occasion de découvrir une jeune Véronique Jeannot ayant une carrière qui allait exploser dans les années 80. Ce feuilleton, c'est Paul et Virginie. Les trois autres séries qui ont marqué cette période furent L'île perdue, série télévisée australienne où cinq jeunes gens restés à bord d'un navire en détresse, Tony, Marc, David, Anna et Sugi, dérivent, et s'échouent sur une mystérieuse île du Pacifique. Les habitants y vivent toujours comme au XVIIIe siècle. Le maître de l'île est le Grand Quisitor, un despote qui fait régner la terreur et maintient la population dans l'ignorance du monde extérieur. Son visage est toujours dissimulé sous une capuche, et l'on dit de lui qu'il est immortel. When they woke in the morning, they saw the trees and the beach. It was the Lost Islands, the Lost Islands. Serpico est une série américaine où Frank Serpico est un policier au 22e district de New York. Très intègre, il dénonce la corruption partout où elle existe, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être peu apprécié par ses collègues. En juin, la série américaine, qui va aussi avoir un succès sur TF1 et marquer une génération complète, grâce à un excellent doublage d'ailleurs de Jacques Balutin et Francis Lax. C'est une série qui met en scène deux policiers de Bay City, Californie, une ville imaginaire calquée sur Los Angeles. Il y a le brun, David Michael Starsky, interprété par Paul Michael Glaser, ayant grandi dans les rues de New York et un peu naïf et très extraverti, et son acolyte, blond, Kenneth Hutch Hutchinson, joué par David Soul, qui lui est plus réservé et réfléchi. Du côté d'Antenne 2, on trouvera toujours Apostrophe, des chiffres et des lettres, les Brigades du Tigre, les 5 dernières minutes, le Grand Échiquier ou encore La Tête et les Jambes. Au niveau des séries, celle dont nous avons déjà parlé va apparaître cette année-là et avoir le même impact qu'à la diffusion francophone belge, c'est L'Âge de Cristal. Deux autres séries vont également marquer les téléspectateurs de la chaîne. Une télésuite historique américaine, appelée Racine, où un afro-américain qui a appris de ses parents la tradition familiale qui explique que le premier esclave de la famille s'appelait Kunta Kinte, et qui part à la recherche de ses origines. L'autre sera une série française qui allait aussi avoir un succès sur la durée et qui met en scène une équipe de médecins de nuit en situation d'urgence. Outre l'aspect médical, les scénarios mettent en œuvre les aspects sociaux de la fin des années 70 à Paris et sa proche banlieue. Elle fut créée par Bernard Kouchner et les acteurs principaux étaient Catherine Allégret, Greg Germain et Georges Belair. On parle ici de médecins de nuit. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur FR3 en cette année. En ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé de choses marquantes. Nous avons ainsi fait le tour des découvertes de cette année 1978, riche en nouveautés pour la jeunesse, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent, et principalement de continuité pour tout le reste. Maintenant, tout est donc en place pour se rapprocher des années 80, mais ce sera pour une autre fois. En attendant, comme le dit Jean Topard, après le précieux documentaire qui nous était présenté à la fin d'un épisode des Cités d'Or...
Au revoir. À bientôt.